Chapitre 114. Bataille finale. Le garde du corps quitte silencieusement la salle à manger et se glisse au dehors pour courir le long de la baie vitrée. Il porte l'arme couleur sable contre son épaule. Ses lunettes scintillent. Yuna se rend compte qu'il se dirige vers Nico et qu'il va l'atteindre par derrière. Nico est complètement exposé. Le garde du corps le met en joue et lève son doigt vers la détente. Yuna se relève rapidement, vise, fait un pas en avant pour ouvrir la ligne de feu et tire deux coups qui atteignent le garde du corps en pleine poitrine. L'homme titube en arrière et prend appui sur la balustrade au-dessus du bastingage pour ne pas tomber. Yuna se dirige droit sur lui et repositionne son fusil pour l'avoir dans sa ligne de mire. Yuna découvre alors que le garde du corps porte un gilet pare-balles sous sa veste noire. Yuna parvient rapidement à sa hauteur, écarte le canon du fusil du revers de la main et le frappe simultanément avec son pistolet en pleine figure. C'est un coup puissant qui atterrit directement à la base de son nez sur ses lunettes. Ses jambes s'affaissent et dans sa chute, sa tête cogne contre le bastingage avec un bruit sourd. De la sueur et de la morve giclent autour de lui, puis il s'effondre. Yuna et Nico se séparent et, chacun de leur côté, ils longent la salle à manger en direction de la proue. Le rotor de l'hélicoptère tourne de plus en plus vite. « Allez, embarquez !» crie quelqu'un. Yuna court aussi près du mur que possible. Il ralentit et marche avec précaution sur les derniers mètres avant de passer la tête à l'angle de la baie vitrée pour voir le pont avant. Le fils de Raphaël Guidi est déjà installé dans l'hélicoptère. Les ombres des pales vacillent sur le plancher et la balustrade. Yuna entend des voix sur la passerelle au-dessus de lui. Il fait un pas en avant, mais l'autre garde du corps de Raphaël l'a aperçu. L'homme blond est environ à 25 mètres et vise Yuna qui n'a pas le temps de réagir avant que le coup ne parte. Il entend une brève détonation, puis a la sensation de recevoir un coup de fouet sur le visage. Tout devient blanc. Il tombe tête la première contre un transat, puis s'écroule sur le sol en métal. Sa nuque percute la balustrade et sa main cogne violemment contre les lattes. Son poignet manque de se briser. Et l'arme est éjectée à travers la balustrade. On entend un cliquetis lorsque son pistolet heurte l'étrave dans sa chute. Yuna cligne des yeux, et lorsqu'il commence à retrouver la vue, il rampe derrière un mur. Ses mains tremblent, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Du sang chaud coule le long de sa joue et il tente de se relever. Il a besoin de l'aide de Nico, mais avant tout, il doit savoir où est le garde du corps. Il s'essuie rapidement la joue. Une douleur l'assaille lorsqu'il tâte la peau de son visage. Il constate que la balle n'a fait que frôler sa tempe. Il s'agit d'une blessure superficielle. Un sifflement étrange sonne dans son oreille gauche. Son cœur cogne dans sa poitrine. Lorsqu'il se relève derrière le mur métallique, il ressent des douleurs lancinantes à la tête. La sensation aiguë de la migraine grandit en lui. Yuna appuie fermement son pouce contre son front entre les sourcils pour chasser la douleur fulgurante. Il regarde vers l'hélicoptère et tente d'apercevoir Nico. Ses yeux parcourent le pont avant et le bastingage. Le navire armé de la marine s'approche tel une ombre noire sur la mer brillante. Yuna arrache la longue barre métallique d'un transat cassé. Il se tasse contre le mur et voit soudain Raphaël et Axel se déplacer à reculons en direction de l'hélicoptère. Raphaël tient un couteau contre le cou d'Axel d'une main et un violon de l'autre. Leurs vêtements et leurs cheveux volettent dans le courant d'air créé par les pales. Le garde du corps qui a tiré sur Yuna se déplace latéralement d'un pas souple pour le surprendre derrière le mur. Il n'est pas certain de l'avoir atteint à la tête, tout est allé trop vite. Yuna sait que le garde du corps est à sa recherche et tente de s'éloigner, mais son mal de tête engourdit tous ses mouvements. Il est obligé de s'arrêter. « Pas maintenant », se dit-il en sentant la transpiration couler le long de son dos. Le garde du corps dépasse l'angle et lève son arme. Il aperçoit l'épaule de Yuna, devine son cou et sa tête. Subitement, Nico Kapanen arrive en trombe derrière l'homme en le visant avec son fusil d'assaut. Le garde du corps est rapide, il pivote et tire, quatre fois. Nico ne semble pas sentir la première balle qui l'atteint à l'épaule, mais s'arrête net dès que la seconde pénètre son estomac en traversant l'intestin grêle. La troisième balle le manque, mais la quatrième l'atteint en pleine poitrine. Ses jambes se dérobent et Nico tombe sur le côté, contre le bord de l'hélistation. Il est grièvement blessé, et ne se rend sans doute pas compte qu'il presse la détente de son fusil d'assaut en s'effondrant. Les balles partent de tous côtés. En 2 secondes, il vide tout son chargeur face à la mer jusqu'à ce que l'arme cliquette dans le vide. Nico halète. Ses yeux roulent en arrière. Il glisse sur le dos en laissant une trace sanglante derrière lui, puis lâche son arme. Il éprouve une douleur terrible au niveau de la poitrine. Il ferme les yeux un moment, puis lève un regard trouble sur les boulons massifs sous l'hélistation. Il constate que la rouille a pénétré la couche blanche de peinture, mais ne s'aperçoit pas que son poumon droit se remplit de sang. Il tousse faiblement, et sur le point de perdre connaissance, mais aperçoit soudain Yona caché derrière le mur de la salle à manger, une barre de fer à la main. Leurs yeux se croisent, et Nico réunit ses dernières forces pour lui envoyer le fusil d'assaut d'un coup de pied. Axel est terrorisé. Les détonations résonnent encore dans ses oreilles et il tremble de tout son corps. Raphaël recule vers l'hélicoptère en se servant de lui comme bouclier. Ils avancent en titubant et la lame pénètre un peu plus dans sa chair. Axel sent le sang couler sur sa poitrine. Il voit le dernier garde du corps s'approcher de Yonalina mais ne peut rien faire. Yona attrape le fusil chaud et le tire vers lui. Le garde du corps devant l'hélistation tire 2 coups de feu dans sa direction. Il ricoche sur les murs, le sol et la balustrade. Yona sort le chargeur vide du fusil et s'aperçoit que Nico fouille ses poches à la recherche d'autres munitions. Nico halète. Il est très faible. Il est obligé de se reposer quelques secondes, la main appuyée contre son ventre ensanglanté. Le garde du corps crie à Raphaël de s'installer. L'hélicoptère est prêt à décoller. Nico fouille une des poches situées plus bas sur la cuisse et en ressort sa main. Un papier de bonbons s'envole, mais dans sa paume, une cartouche demeure. Nico tousse faiblement, regarde l'unique cartouche blindée et la fait rouler sur le sol jusqu'à Yona. La douille en laiton et la pointe en cuivre miroitent en roulant vers lui. Yona l'attrape et l'enfonce rapidement dans le chargeur. Les yeux de Nico sont désormais fermés. Une bulle de sang apparaît entre ses lèvres, mais sa poitrine se soulève encore rapidement. Les pas lourds du garde du corps résonnent sur le sol. Yona introduit le chargeur dans le fusil, fait avancer l'unique cartouche, positionne l'arme contre son épaule, attend quelques secondes et quitte sa cachette. Raphaël recule en maintenant Axel devant lui. Son fils lui crie quelque chose depuis l'hélicoptère et le pilote fait signe à Raphaël de venir.
« Vous auriez dû m'embrasser la main lorsque vous en aviez la chance !»
chuchote Raphaël à l'oreille d'Axel. Un choc fait tinter les cordes du violon. Le garde du corps s'approche de Nico à grands pas, se penche par-dessus le bord de l'hélistation et pointe l'arme contre son visage.
« Yonotaka !»
crie Yona en finlandais. Il voit le garde du corps relever son arme pour la pointer vers lui. Il se décale rapidement en tentant de trouver la bonne ligne de tir. Cette balle doit l'atteindre. Il ne dispose plus que de quelques secondes. Juste derrière le garde du corps, Raphaël appuie son couteau contre le cou d'Axel. Leurs vêtements sont désormais tiraillés dans tous les sens et des gouttes de sang éclaboussent le sol. Yona se baisse légèrement, lève le guidon de quelques millimètres et appuie sur la détente.
« Yonotaka !» pense-t-il. « Alignez-vous !»
Il sent la violente décharge du recul contre son épaule. La balle blindée est expulsée du canon à une vitesse de 800 mètres par seconde. Sans le moindre bruit, elle s'incruste dans le creux du cou du garde du corps, puis ressort par sa nuque. Sans avoir perdu beaucoup de vitesse, elle pénètre dans l'épaule de Raphaël et disparaît au-dessus de la mer. Le bras de Raphaël est projeté en arrière et le couteau tombe sur le pont. Axel Rissen s'effondre. Le garde du corps regarde Yona d'un air étonné. Du sang s'écoule le long de sa poitrine. Il lève son pistolet d'une main tremblante, mais il retombe aussitôt. Il pousse un râle et tousse du sang. Il s'assied, touche son cou d'une main faible, cligne des yeux 2 fois. Il s'ouvre et reste écarquillé. Raphaël a les lèvres blanches. Debout dans l'air tourbillonnant, il presse sa main qui tient encore le violon contre son épaule en fixant Yona droit dans les yeux.
« Papa !»
crie le garçon dans l'hélicoptère en lui jetant un pistolet. Il heurte le sol, rebondit et s'immobilise au pied de Raphaël. Axel est assis dos au bastingage. Il a un regard vide et tente d'arrêter avec sa main le flot de sang qui coule sur son cou.
« Raphaël !» « Raphaël Guidi, je suis là pour vous arrêter !» crionna d'une voix forte.
Raphaël est à 5 mètres de son hélicoptère.
Sa veste de survêtement flotte autour de son corps. Péniblement, il se baisse et ramasse l'arme. « Vous êtes soupçonné de trafic d'armes aggravées, enlèvement et meurtre !» dit Ona.
Raphaël a le visage en sueur et le pistolet tremble dans sa main.
« Lâchez votre arme !» crie Ona.
Raphaël tient le lourd pistolet dans sa main, mais son pouce accélère lorsqu'il rencontre le regard calme de Yona. Axel fixe Yona et tente de lui crier de courir. Yona reste immobile. Tout se passe en quelques secondes. Raphaël pointe son pistolet sur Yona et appuie sur la détente, mais l'arme cliquette dans le vide. Il essaie à nouveau de tirer, mais comprend que son fils n'a jamais rempli le chargeur comme il l'avait promis. Raphaël sent une vague froide de solitude déferler sur lui. Il réalise qu'il est trop tard pour lâcher l'arme et abandonner la partie, à l'instant où la première balle pénètre son corps. 3 coups sourds se succèdent. Les détonations résonnent sur la mer. Raphaël a l'impression de recevoir un violent coup de poing dans la poitrine. Elle est suivie par une douleur lancinante lorsqu'il titube en arrière et perd la sensation dans ses jambes. Le pilote ne peut plus attendre. Et l'hélicoptère décolle sans Raphaël Guidi. Il prend de l'altitude, les moteurs grondant. Le navire lance-missile FNS Anko, de la marine finlandaise, s'approche encore du yacht. 3 tireurs embusqués déchargent de nouveau leurs armes sur Raphaël. Une seule détonation résonne. Il fait quelques pas en arrière et tombe, tente un instant de se relever, mais n'arrive plus à bouger. Son dos est chaud, mais ses pieds sont déjà glacés. Raphaël fixe l'hélicoptère qui monte rapidement vers le ciel brumeux. Assis dans le cockpit, Peter regarde le yacht rapetissé en contrebas. Son père gît sur la zone d'atterrissage, à l'intérieur des cercles, comme sur une cible. Raphaël Guidi tient encore le violon de Paganini dans la main. Une mare de sang noir se répand rapidement sous lui. Son regard est déjà mort. Yona est le seul encore debout sur le pont avant du bateau. Il reste immobile, tandis que l'hélicoptère blanc disparaît. Le ciel jette une lueur cristalline sur la Seine. 3 navires flottent côte à côte, immobiles sur la mer scintillante, comme abandonnés. Bientôt viendront les hélicoptères de sauvetage finlandais, mais pour l'heure, un silence étrange règne, comme après la dernière note d'un concert.